Un sandwich? Le sandwich quoi? Sandwich culturel.
Animé par M&M.
Bon mardi midi à vous en studio et à l'écoute. Comment ça va, Marika?
Ça va toujours bien quand je suis en onde avec toi.
Oh, je suis contente de te revoir. Alors, mardi 6 juin 2021, il est présentement midi et 1:18. Je suis si précise aujourd'hui. Vous écoutez présentement votre sandwich culturel animé par votre duo M&M, ici Marianne. Et Marika, comment ça tente aujourd'hui de faire notre émission?
Ah, je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais toujours très contente de me retrouver en onde avec toi.
Ah, je suis contente.
Toujours très excitée quand c'est rendu le temps de notre émission.
Ben oui, vraiment. Puis, je veux juste vous rappeler que notre émission, c'est une émission qui parle de musique, de cinéma et de spectacle émergent, québécois en majorité. Notre émission joue tous les mardis midi aux deux semaines et passe en rediffusion la semaine où on n'est pas en direct. Sachez que si vous êtes des mordus du sandwich culturel, vous pouvez retrouver votre émission, notre émission, sur la page Facebook du sandwich culturel ou encore sur le site web de... Oh! Donc, ce que je disais, alors aujourd'hui, pour l'émission, on décide de vous présenter deux artistes musicaux autochtones et une plateforme de découverte de musique autochtone que je vous en parle dans quelques instants. Des événements musicaux à la pelletée. On vous réserve toute une programmation. On va parler du Cher Blues. On parle également de la cité et tout. Et finalement, on termine en vous jasant d'un documentaire choc, ébranlant, mais nécessaire. Alors, on passe maintenant au volet musical. Donc, je veux vous montrer une plateforme qui s'appelle Nikamawin, exactement. Donc, en langue atikamekw, ça veut dire chanson ou musique, selon l'utilisation qu'on en fait. Donc, c'est une plateforme qui a été développée par Musique Nomade. La plateforme a été lancée le 19 janvier dernier et donne accès aux créations et aux profils de plusieurs centaines de musiciens et de chanteurs autochtones. Donc, c'est une plateforme de découverte de ces profils-là d'artistes. C'est un outil, justement, de découverte et d'écoute, mais c'est aussi une plateforme qui est ouverte à tous les artistes canadiens autochtones. La plateforme mentionne également qu'elle aimerait s'ouvrir au Canada et également à l'international. Ensuite de ça, l'entreprise Musique Nomade, c'est un organisme indépendant et qui a été développé il y a de cela à peu près une douzaine d'années par le Wapikotan. Voyons, j'ai de la misère, là, je vous avertis, j'ai des mots en Inuktitut et je vais devoir, soyez indulgents, s'il vous plaît, pour moi, je me suis pratiquée un petit peu. Donc une application, exactement, vous pouvez aller le voir, c'est un site web aussi, donc le www.nikamawin.com. Donc, à chaque semaine, il y a des artistes en vedette, playlist du mois également. Donc, c'est une plateforme très, très, très remplie. Maintenant, une artiste que je vais vous faire découvrir, qui est d'ailleurs sur cette plateforme, Laura Nikoué. Marika, Laura Nikoué, tu la connais?
Yes, je l'ai découvert sur Instagram. Instagram, comme si j'ai fait une pause. ça m'a marqué par son style qui est vraiment plus rock et punk.
Oui, 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 c'est ça. Puis dans le fond, justement, tu dis qu'elle a un style pop, rock,
ouais.
Punk et également folk. Beaucoup folk, on est dans le folk, ouais, aussi. C'est un style de musique qui est très authentique. On retrouve du piano, de la guitare acoustique, des chansons, des chœurs, des chorales. Donc, Laura Nikoué, c'est une artiste québécoise et atikamekw. Donc, c'est sa nation. C'est une auteure, autrice, compositrice, interprète. Sa communauté, c'est Wemotassi. Et c'est un territoire, dans le fond, qui est situé à peu près à 106 kilomètres au nord de la Tuque, en Mauricie. C'est d'ailleurs le territoire où elle a grandi, où elle a appris la culture, la musique également. Le mot Wemotassi veut dire « petit village » ou bien « la montagne d'où on observe » ou encore « lieu de rassemblement ». Donc, ça peut avoir plusieurs significations, de tout dépendant comment qu'on l'emploie. L'artiste dit également qu'elle retourne dans son village pour retrouver de l'inspiration quand elle n'en a pas. Dans le fond, ce village où elle est née, Là, c'est vraiment où est-ce qu'elle retrouve sa richesse, donc la culture, la forêt. Elle chante beaucoup dans sa langue maternelle. Elle ajoute aussi à ses œuvres un petit peu une touche de grunge, si je peux dire, avec sa voix aussi sablonneuse.
Ouais, c'est vraiment, ça vient rajouter quelque chose.
Oui, non. Vraiment, dans ses œuvres. Hein? Oui,
dans l'authenticité de ses œuvres.
Puis donc, Laura Nyquist est la première artiste atikamekw à s'être produite au Francofolie de Montréal en 2011. Donc, elle se définit vraiment comme l'ouvreuse de portes dans son domaine et elle fait une visibilité aussi aux femmes et aux personnes autochtones aussi qui veulent percer dans la musique, de plus en plus même. Elle souhaite partager et sensibiliser le beau comme le difficile dans ses albums, ses chansons. On entend aussi dans ses œuvres beaucoup son héritage natal, le respect de la nature et l'empowerment des femmes. Dans son premier single de son prochain album, Nikto Kiko, qui veut dire trois jours. Donc, cette chanson-là raconte justement la visite à son père dans son village un jour de l'an. Elle et son frère étaient venus cogner à la porte de son père en disant « Papa, ouvre-nous » et ça leur a pris finalement au père trois jours avant qu'il vienne lui ouvrir. Oh. Donc, c'est une pièce qui est très sensible et grandiose, ça c'est certain. Et pour faire un petit topo, elle a donc sorti quatre albums. Donc, en 2015, on a le Waratanak, qui veut dire « Au creux de la montagne », donc premier album. En 2017, on a Nikamoan, qui, ça, c'est son deuxième album. Et troisième album, dans 2019, Moté Moté. Et son tout dernier album, qui est sorti en avril dernier, donc 2021, Waska Matisawin, qui veut dire « cercle de vie », mais attention, « cercle vicieux ». Donc, il faut faire la différence. Un cercle de vie, c'est supposé être joyeux. Mais là, cette fois-ci, c'est un cercle vicieux. Donc, l'album qui vient de sortir tout récemment est un album qui a été produit par Musique Nomade. Et il a travaillé sur cet album pendant, attention, 3 ans. C'est beaucoup de travail.
Beaucoup de travail.
Tout à fait. Elle parle justement de la résilience et justement la pièce Motescano, qui veut dire les sentiers de nos ancêtres, est sur cet album et je vous invite à écouter un petit extrait.
Comme vous comprendrez, elle se démarque par son style qui est assez grunge. Et si vous connaissez un peu mes goûts, j'aime beaucoup la musique rock. Donc, c'est sûr que quand c'est apparu dans mon feed Instagram, j'ai automatiquement été voir son Spotify et j'ai adoré la pièce au complet. Donc, je vous invite fortement à aller écouter la chanson. Je vous dis, un gros coup de cœur assuré.
Au complet, c'est certain. Et savais-tu, Marie, que la chanson parle de l'importance du partage des connaissances avec les aînés? Donc, ouais. C'est justement dans la chanson, oui, tout à fait. Et il y a question de mocassins avec lesquels on fait nos premiers pas dans la vie et des raquettes. Il y a comme un sens avec la raquette que tu cales jamais avec des raquettes, donc tu tombes jamais. Donc, il y a vraiment toutes sortes de belles images comme ça,
et
les vidéoclips.
Ce qui est beau, dans justement la description que tu viens de dire, on voit carrément ça dans le vidéoclip.
Ah oui, c'est bon, c'est ça. Donc, je vous invite justement à aller voir le vidéoclip qui est sur ces plateformes. Sachez que Laura Nyquist sera en prestation lors du festival en chanson de la Petite Vallée du 8 au 10 juillet, donc du jeudi au samedi. Et si, par exemple, vous la manquez et que vous voulez vous déplacer un petit peu plus, elle sera aux Îles de la Madeleine le 30 juillet en spectacle au Vieux Treuil. Donc, Laura Nyquist, c'est sûr qu'on va en entendre parler de plus en plus. Maintenant, Élie Sapie. Je fais ça rapide, Élie Sapie, je l'adore. C'est une artiste, justement, autrice, compositrice, interprète et réalisatrice Inuk du Québec. Elle est née en 1977 à Saluit, au Nunavik. C'est une poète également. Elle vient d'un père terrevien et d'une mère Inuk. Elle souhaitait devenir journaliste et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est sortie de son territoire en 1999 pour aller étudier en communication. Finalement, elle s'est vite rendue compte que, bon, c'était plutôt la musique et la réalisation qu'elle voulait se pencher davantage. Elle réalise le film documentaire « Si le temps le permet » en 2003 et le ce documentaire-là remporte le prix dans la catégorie communauté lors du festival de présence autochtone. Et il a fait beaucoup d'albums également. Là, en 2004, il a fait un duo avec Alain Auger. Ils ont récolté des prix. En 2009, un autre album, There Will Be Stars, un premier album solo. Ensuite de ça, en 2012, Traveling Love, un album plus pop, inspiré de la musique des années 1970. Et en 2018, bon, The Ballad of the Runaway Girl, album plutôt folk. Elle décrit vraiment comme un voyage spirituel et tout. Donc, il y a plein de belles choses sur Il Sapi. Et je propose qu'on aille en musique. Et mais après la musique et la petite pause, pas trop longue, on écouterait un extrait d'Il Sapi, Marika. Donc, on s'en va avec la chanson Gun Day Plus de Kobo Plus de Pouvoir. Et ensuite, on s'en va en pause et on revient.
Au fond, est-ce que ces théories sont nocives? Je veux dire, est-ce qu'elles représentent un danger pour la démocratie?
Bien sûr qu'elles représentent un danger pour la démocratie. On sait assez bien qu'elles sont liées, elles sont corrélées à une radicalité politique. Elles sont liées.
Un jour pour naître, un jour pour mourir. Je cache ma colère derrière mon sourire. Tu tiens avec les fake search que tu ne peux pas relate. À chaque fois que je me sens frustré, je prends du recul et vais prier. Mais que vaut la vérité si mentir un genre de bénéfice? Tu ferais mieux de le faire bien si tu conjoins le rang des riches. Police et politiciens sont sous l'emprise de la corruption. Ça suscite un dur cynisme au cœur des constituants. Mobbing et what's going on au Congo, ils sont massacrés. À peu près de 6 millions. Ils ont pillé le village sans rien laisser aux survivants. Quelqu'un a mis la preuve sur mon téléphone intelligent. Ils ont laissé le coton pour prendre les mines de coltan. Depuis King, frère, rien n'a changé. Les gars continuent de prendre des risques pour manger. Chaque jour, je les vois mettre leur vie en danger. Par mes pouvoirs, oh, that's what they want. Depuis King, nigga, rien n'a changé. Les gars continuent de prendre des risques pour manger. Chaque jour, je les vois mettre leur vie en danger. Par mes pouvoirs.
Après George Floyd, malheureusement Gandhi, rien n'a changé. Mon boy est mort, un jour j'aimerais ça bien le venger. Si je vois un snitchman, il est mieux de déménager. Quand je suis dans le bloc avec des loups et on prend pas de congé. Numéro 1 en Ontario et sur le match, je peux aller pound for pound. À chaque fois j'entends le son d'un harmonica, je passe à Bad Bush Brown. En avant du fait nos chaînes en train d'écrire ses rhymes. On a perdu un vrai des vrais, que Dieu repose son âme. Je m'en crise que t'as un Bentley et des chaînes en diamant. Ta mère est encore dans le bloc et tu viens de la voir rarement. Avant j'étais aveuglé, maintenant je peux tout voir clairement. Je suis respecté dans le rôle où ils font ça illégalement.
Depuis King, frère, rien n'a changé. Les gars continuent de prendre des risques pour manger. Chaque jour je les vois mettre leur vie en danger. Par mes pouvoirs, oh that's what they want. Depuis King, nigga, rien n'a changé. Les gars continuent de prendre des risques pour manger. Chaque jour je les vois mettre leur vie en danger. Je ne suis pas prêt à mourir, oh j'ai la peur de vivre. À chaque goutte d'énergie qui tombe sur les pages de ma Bible, je me questionne sur l'ordre du nouveau monde. Le 5G et les ondes, l'élite qui œuvre dans l'ombre. Ces soi-disant démocraties essaient de nous rendre crazy. On sert de la COVID-19 pour décimer nos aînés. Je rappe pour tous ceux qui n'ont pas de voix. Ce n'est pas que les gauchistes, LGBTQ féministes qui doivent profiter de la loi. J'évite le bloc car y'a trop de haters campés sur le corner. Je sens la jalousie et haine en train de brûler leur cœur. Regarde le ciel qui pleure, l'exploitation de mineurs. Moi j'ai ça en horreur que de manger du pain et du beurre. Depuis King, frère, rien n'a changé.
Rien n'a changé.
Les gars continuent de prendre des risques pour manger. Chaque jour je les vois mettre leur vie en danger. Par mes pouvoirs, oh that's what they want. Depuis King, nigga, rien n'a changé. Les gars continuent de prendre des risques pour manger. Chaque jour je les vois mettre leur vie en danger. Par mes pouvoirs.
Alors, de retour au sandwich culturel. Alors, juste avant la petite pause, vous avez entendu la chanson « Plus de cob, plus de pouvoir ». Donc, là maintenant, je termine en vous parlant donc d'Eli Sapi. Je continue, en fait. Donc, justement, on parlait en 2018, elle a fait son album, son dernier album qu'elle a fait, « The Ballad of the Runaway Girl », qui est un album vraiment folk. Elle décrit comme un long voyage spirituel où elle exprime son mal de vivre, malheureusement. Et dans cet album-là, elle fait une pièce qui s'appelle Arnaque. Donc, c'est une pièce qui est un hommage à la force des femmes. Et je vous invite à écouter un extrait. Wow, c'est délicieux. La douceur vocale et en même temps, comme l'animalité musicale, si je peux dire, c'est super bon.
Vraiment.
Wow, Elie Sapie, elle monte dans mon cœur, ça c'est certain. Si vous voulez aller voir le vidéoclip de cette chanson-là, qui met en scène justement la chanteuse dans son village natal, le village qui est à peu près une communauté de 1400 habitants seulement au nord de l'Arctique québécois, je vous invite à aller le voir sur les plateformes justement YouTube, YouTube pour le vidéoclip, mais pour la chanson, Spotify, Google Play Music et tout, ça c'est certain. Donc, c'est ce qui conclut le volet musical. Maintenant, j'enchaînerai avec le volet spectacle. Donc, comme mentionné au début dans l'introduction de notre émission, on vous parle un peu plus du Cher Blues and Folk, qui est un événement cherbrookois, qui est une production du Théâtre Granada se déroulant du 7 au 11 juillet au centre-ville de Sherbrooke. Cet événement-là, c'est environ une trentaine de spectacles qui seront présentés un peu partout dans Sherbrooke. Je vous nomme des endroits, notamment le Café Blabla, le Savo, Théâtre Granada, Liverpool, Bock et Bière et d'autres endroits. Sachez que ce festival-là contient beaucoup, beaucoup d'artistes, là, justement de la région, de l'Estrie, mais également de d'autres régions. Le 7 juillet, ça sera Steve Hill, qui d'ailleurs demain, le 7 juillet, ça sera Steve Hill, un guitariste trifluvien qui ouvrira le festival. Si vous êtes intéressé par l'événement, la programmation complète se trouve sur le www.cherblues.ca, donc /programmation. C'est un rendez-vous. Dirigez-vous là pour avoir plus de détails. Et aussi, Elie Sapie sera en spectacle durant cet événement-là le 9 juillet à 21h15 au Théâtre Granada du séminaire de Sherbrooke qui est sur proche de la rue Marquette, si je ne me trompe pas. Donc, pour plus de détails pour cette performance-là, ça sera au www.destinationsherbrooke.com. Tous les détails sont là. Même s'il y a de la pluie, écoutez, on n'est pas fait en chocolat. Elie Sapie sera là quand même. Ça me surprendrait, mais à moins d'un très, très gros orage, les artistes seront là. Donc, on a passé à travers pire, hein?
Oui. C'est ça. Pour pire, il y a eu pire.
Exactement. Donc, Marika, tu nous parles.
Là, je vais continuer. Tu sais, avec l'été. L'été, ça rime avec quoi? Avec festival. Zone verte, ça rime avec quoi? Avec festival. Fait qu'on en a des festivals pour vous à vous présenter aujourd'hui. Donc, Marianne vous a parlé de Cher Blues. Et moi, je vous parle des concerts de la cité. Je ne sais pas si tu en as entendu parler ou tu l'as vu passer sur les réseaux sociaux.
Ouais.
C'est carrément dans notre sujet d'émission. C'est avec des artistes émergents québécois. Et ça se passe du 14 juillet au 6 août. Ce sont des spectacles à l'extérieur qui se déroulent à la place de la cité située sur la King West.
Ouais.
Et la formule du festival, c'est deux spectacles par jour, dont un, il y a les concerts midi et les concerts en soirée. Les concerts midi sont présentés de midi et quart à 1h et les concerts en soirée dès 19h. C'est du mercredi au vendredi. Fait que l'ouverture du site le soir, c'est à partir de 6h, mais ça, vous avez amplement tous les détails sur le site internet Les concerts de la cité. Fait que pour vous donner une petite idée de la programmation, je suis sûre que vous allez reconnaître des noms qu'on a déjà parlé en onde. Donc, le 14 juillet, on a en soirée Thierry Larose, le midi, il y a Carl Mayotte, 15 juillet, d'autres super artistes. Je vais parler juste des artistes qu'on a parlé ici, là. Puis sinon, il y a le 16 juillet, que le midi, il y a Le Couleur qui vient en soirée, c'est Naya Ali. Le 21 juillet, c'est Juliane en soirée, c'est Pesao. Le 22 juillet, c'est le sur l'heure du midi, c'est Laurence Castera, mon coup de cœur pour toujours.
Oui.
En soirée, c'est Miel. Le 23 juillet, c'est San James. En soirée, Belle Grand-Fille. Juste dire les noms, je suis super excitée.
Oui! Et le 5 août, Marika, pièce sur pièce. Je connais ce groupe-là. C'est un duo.
OK.
Une fille et un garçon. Et leur chanson, c'était extraordinaire. La chanteuse Stéphanie Blanchette, accompagnée de son copain, son nom, Olivier Brousseau, je pense. Je ne veux pas m'avancer trop, mais bref, c'est un duo super bon. Ils font de la chanson vraiment... c'est assez dynamique, là. C'est assez dynamique, mais ça va dans la douceur aussi. C'est poétique, leur chanson, c'est très bon. Je vous invite à aller les voir d'ailleurs le 5 août.
Oui, puis tu sais, je les ai énumérés rapidement quand même. Et vous pouvez toujours aller voir la programmation sur le site Internet plus en détail. Et le 6 août, c'est sur l'heure du midi, c'est Charlie Cliff qui ferme le midi, concert d'acité, et qui, c'est la personne... Mon Dieu! Ouh! En soirée, la personne qui close le festival, les concerts d'acité, c'est Slow Gin Fizz.
Ah!
Donc, c'est une très belle programmation pour découvrir nos artistes québécois émergents. Et si vous nous écoutez depuis le tout début de nos émissions, bien évidemment, vous en avez reconnu Thierry Larose, Le Couleur, Laurence Castera, of course. c'est ça.
Ben oui, si d'ailleurs vous vous souvenez plus ou quoi que ce soit, vous voulez en apprendre plus, vous pouvez aller revoir nos émissions qui sont sur notre page. Oui, mais c'est vrai, tout à fait. On fait jouer leurs chansons et tout oui. Ça. C'est une belle fiche de découverte, si je peux dire.
Parfait. Puis pour les billets des festivaliers qui assistent au concert midi vont être remis à leur arrivée. Vous n'avez pas besoin de les acheter d'avance. Et vos coordonnées vont être recueillies au même moment à cause de la COVID situation. Et pour les concerts en soirée, les festivaliers, ils vont être invités à se procurer des billets gratuits au guichet de la billetterie du Théâtre Canada. Puis il y a un maximum de 2 paires de billets par personne par spectacle. Donc, si tu as bien compris, c'est gratuit.
Yes!
So, bien évidemment, avec la COVID, il y a un maximum de 180 personnes qui vont pouvoir assister au spectacle et ils vont avoir installé des chaises Adirondack.
Mais est-ce qu'on peut apporter nos propres chaises?
J'en ai aucune idée parce qu'ils vont...
Ils comptent! Mais ils vont compter les gens.
Ouais, il faut qu'ils comptent. Fait que j'imagine qu'il va y avoir 180 Adirondack.
Ah, okay. Ben c'est le fun. Puis donc, on doit réserver justement par le billet qui est gratuit, bien évidemment, ouais. Mais c'est réserver la place, là, c'est ce que ouais. Je comprends.
Mais j'imagine que le midi doit attirer un peu moins que la soirée. Fait que c'est probablement pour ça que on n'a pas besoin de réserver sur l'heure du midi, mais pour la soirée, oui. Donc, c'est sur 50 Place de la Cité, qui est derrière le Palais de Justice et la bibliothèque Eva Sénécal. Et c'est l'entrée se fait par la rue Marquette. Et bien évidemment, c'est gratuit. Et pour plus d'informations, je vous invite à aller consulter le www.concertdelacité.ca. Sinon, un autre festival qui a lieu en même temps, c'est la fête du Lac des Nations.
Mais c'est un peu décalé, lui.
Et oui, puis non, c'est parce que...
Non,
la Cité, c'est du 14 au 6 août, du 14 juillet au 6 août et la fête du Lac des Nations est du 14 au 17 juillet. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas c'est quoi les autres éditions, à quoi ils ressemblaient parce que je ne suis pas arrivée ici avant la COVID.
Oui.
Fait que, contrairement aux autres années, il y a les spectacles qui vont se dérouler à la salle Maurice O'Brady de l'Université de Sherbrooke.
Ben c'est ça, c'est parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait?
À l'extérieur, je crois.
Oui, exactement. Au Lac des Nations, là, il y avait différentes scènes. Il y avait une plus grosse scène, justement, la scène de l'Auto-Québec. Puis il y avait une scène un peu plus de la SAC, je pense, ou quelque chose comme ça. Et donc, là, il y avait des artistes un petit peu plus connus qui performaient sur des grandes scènes et tout ça. Et il y avait aussi des manèges. Il y avait une section complète avec la grande roue, des trucs comme ça. Bon, il y avait de la nourriture également. Il y avait des activités dans l'après-midi. C'était un très gros festival.
D'accord. Mais c'est sûr qu'avec la COVID, ouais. ça restreint tout ça.
Tout à fait.
J'imagine que l'année prochaine, Fête du Lac des Nations, ça va être génial. Mais c'est tout de même époustouflant comme programmation cette année, malgré la COVID. T'sais, les spectacles, comme je disais, ils se déroulent à la salle Maurice O'Brady à l'université et ils sont offerts en salle et en mode virtuel. Donc, vous pouvez acheter des billets pour les écouter en ligne dans le confort de votre chez-vous.
Ben c'est vrai. Et peut-être, OK, parce que là, j'ai vu aussi, il y a une place à Sherbrooke où est-ce qu'ils diffusent à l'extérieur des spectacles, des événements, mais c'est vraiment sur un écran. Là. Ils le diffusent, mais c'est à l'extérieur que tu peux aller le voir. Donc, je sais pas. Peut-être que ça... Mais j'aimais l'hypothèse, là.
Ben, j'ai pas vu d'informations à ce sujet-là pour la fête du Lac des Nations, peut-être pour d'autres festivals, mais ouais. Peut-être pas pour lui. Mais c'est présenté par l'Auto-Québec, donc attendez-vous à un spectacle de quality! Les achats sont en ligne et il faut faire vite parce que les places s'envolent rapidement. Il faut faire attention parce qu'il est sur leurs réseaux sociaux, ils disent que les spectacles sont à coût de 25 $ Petite étoile. Ils ne sont pas tous à 25 $
OK.
Il y en a qui sont à 35 et il y en a qui sont à 15 $
Comme Arthur l'aventurier.
Voilà, madame. Mais tu sais, 35 $ c'est surtout des plus grands. Ben, j'aime pas dire le terme grands artistes, là, mais tu sais, c'est Marie-Mé, Émile Bilodeau, Cain, Valère.
Non, mais c'est-à-dire qu'ils sont plus connus. Là, ça, c'est ouais. Des faits.
C'est un fait que Marie-Mé est probablement plus connue que
Valère.
Ouais.
Mais Valère, c'est super bon.
Valère, ben, ils sont dans le même prix que Marie-Mé.
Bon.
Fait que ça n'a pas rapport.
OK, ben, dans le fond. Ah ouais, c'est ça. Ben, regarde, de toute façon, je sais pas comment ils déterminent leur prix, là. Peut-être.
Rendu là,
quand on va aller voir un bon spectacle, on regarde pas le prix.
Non, on ferme les yeux puis on paye.
Non, mais c'est un bel événement.
Oui, c'est vraiment un bel événement. Et à ce que j'ai pu remarquer, il ne semble pas d'avoir de passeport pour tous les spectacles, vu que c'est comme à place limitée. Donc, le seul passeport qui est disponible, c'est le passeport virtuel au coût de 27,45 $ pour les 9 spectacles ou 6,14 $ par spectacle. Ce sont tous au même prix pour tout le monde.
Okay, on parle de passeport vraiment pour entrer chaque spectacle.
Oui, okay, de parfait. Les écouter dans ton salon.
Ouais.
Et il n'y a pas de rediffusion.
Oh,
ça, okay. Ils ont été très clairs là-dessus. Il n'y a pas de rediffusion de comme si tu le manques. Tant pis pour toi, tu avais le chaîne là. Faut oui. Vivre le moment présent du
mais
spectacle.
En fait, là, faut dire, la rediffusion, c'est un plus là, qu'on a eu avec la COVID. Parce que, par exemple, tu t'achètes un billet pour aller voir un spectacle vraiment en live. Là, par exemple, avant la COVID, il n'y avait pas d'option de rediffusion. Peut-être des fois, acheter un DVD. Mais ça, ça date, là, tu sais.
Acheter un DVD.
Je vais acheter le DVD du spectacle. Ça se pouvait, là, tu sais.
Ben, ça se fait encore.
Ouais. Mais donc, c'est ça. Mais donc, là, la rediffusion, il faut dire qu'il faut être là sur le coup.
Oui. Puis, une très belle, très, 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 très belle programmation, je trouve. Ça commence le 14 juillet à 18h avec France Damour, qui va nous chanter des belles chansons. 20h30, c'est Émile Bilodeau, le grand et l'unique Émile Bilodeau que j'aime bien. Well. 15 juillet, 18h, c'est Offenbach Acoustique. 20h30, Cain. Dépêchez-vous pour Cain parce qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de place. Le 16 juillet, c'est 18h, c'est Hugues Diamond of Rock. Je crois que c'est un groupe qui fait des reprises rock. Mais okay, j'avance pas plus que ça parce que j'ai pas trop fait de recherche là-dessus. 20h30, c'est Valère, 17 juillet à 10h le matin. Arthur l'aventurier, la gang.
C'est le moment pour les familles, là.
Pour les familles, oui, c'est parfait pour les familles.
Mais c'est ça, justement. Auparavant, avant la COVID, là, il y avait des spectacles d'une telle sorte avant là, donc les gros spectacles ben, justement à l'extérieur et tout ça. Donc, ils ont repris ça, là, c'est super.
Mais question par rapport, avant, est-ce qu'il y a un coût? Il y avait un coût pour
oui,
rentrer sur le...
Oui, tout à fait. Il y avait un coût pour rentrer sur le site. Il y avait des barrières et tout ça. Là. Il y avait un contrôle qui était fait. On pouvait justement, il y avait des passes journalières ou encore des passes pour tout le long du festival. Il y en a qui achetaient aussi leur passe à rabais, là, mettons au mois de mars. Là. Mais là, je ne sais pas encore si ça s'était fait. Mais oui, avant, il y avait vraiment des coûts. Je ne sais pas, probablement que les coûts, ils sont peut-être différents parce que tu pouvais choisir d'avoir, il y avait des couleurs également qui donnaient accès, par exemple, aux attractions ou encore juste au spectacle.
Ça doit être vraiment le fun en temps normal. Ça doit faire carnaval, je dois s'en
dire. Ah oui, vraiment. Non, c'était, en fait, c'était l'événement à Sherbrooke, là, l'été, qui attirait beaucoup de gens et qui faisait... ajouter des festivités à Sherbrooke, également. Là,
mais il faut croire que même si l'ampleur est moins grande au niveau des activités qu'ils proposent, ça reste que les places s'envolent vraiment vite, fait que les gens ont encore l'intérêt à aller voir ça.
Oui, et il faut dire aussi, peut-être avant que tu termines la programmation, là, l'organisation du Festival du Lac des Nations, la fête du Lac des Nations, a, ben, juste en fait, avant qu'ils disent qu'ils pouvaient faire des festivals à l'extérieur, la santé publique, cet événement-là, ils ont dit, écoutez, nous, on avait déjà tout prévu de faire à l'intérieur, à la salle à Maurice O'Brady et tout ça. Donc, on ne changera pas la programmation, mais on peut faire des spectacles à l'extérieur avec un nombre limité de personnes, mais la programmation, la direction du festival a finalement décidé de garder leur idée de départ parce que tout était déjà prévu comme ça. Donc, il faut dire qu'on s'attend peut-être à des spectacles extérieurs l'année prochaine. Là. Donc, ils étaient sur cette voie-là. Là,
moi, je suis optimiste. Moi, je pense que l'année prochaine, tout va redevenir à la normale.
Tout à fait. Et ça n'empêche pas, là, des spectacles à l'intérieur, c'est tout aussi bon. Là. Je veux dire, c'est excellent. Donc, qu'on termine là, avec...
Le 17 juillet, 18h, c'est The Lost Finger. Et pour toi, le 17 juillet, à 20h30, mesdames et messieurs, attention...
Marie-May!
Non, honnêtement...
Elle dit ça,
bon,
mais...
Bon, ben là, t'as volé mon secret. Tout le monde le sait maintenant que Marie-May, je l'ai tatouée sur le cœur.
Pour vrai. Non, non.
Pour vrai?
Pour vrai. Genre, elle a vraiment Marie-May sur la poitrine.
Les vrais savent.
Donc, pour plus d'informations, bien évidemment, vous pouvez aller vous rendre directement sur le site Internet du Fête du Lac des Nations et aller voir sur leurs réseaux sociaux où ils sont très, très, très actifs et... répondre rapidement.
Oui, et je ne sais pas encore cette année si ça a lieu, mais il y a également un autre festival à Sherbrooke qui se déroule plutôt au mois d'août. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, le Festival des traditions du monde. Ça, c'est un festival qui est, ben, je ne dirais pas complètement différent de celui-là, mais qui a son genre. C'est-à-dire, ceux qui ne connaissent pas le Festival des traditions du monde, ce qui les caractérise, ben en tout cas, ce que moi, je les retiens, c'est qu'à chaque fois, là, il y a à peu près 10 à 15 petites maisons de nourriture. OK, dit comme ça, c'est un petit peu bizarre. Mais c'est des maisons, des petits stands, des petits kiosques où est-ce que c'est chaque pays qui vend de la nourriture de chaque pays. Par exemple, il y a une place où est-ce que c'est la Grèce. Après ça, c'est la Turquie. Après ça, il y a le Québec même et tout ça. Et c'est justement le Festival des traditions du monde. Alors, on veut ouvrir sur le monde.
C'est où, ça?
C'est habituellement au Centre Julien du Charme, donc qui est à Fleurimont. Donc, mais c'est un immense terrain. Là. Je veux dire, il y a de la place pour des milliers de personnes.
Ça me fait penser à un autre... Je sais pas, je pense que c'est plus dans le temps de Noël là, que ça, le fête dans le Vieux-Québec, là, où il y a comme plein de kiosques de chaque pays avec les origines et tout. Là.
Ah, ça se peut,
avec
ouais.
Différentes cultures. Mais à en Québec. Tout cas, mais ça, c'est dans le temps de Noël. Là.
Ah, mais c'est ça. Mais de toute façon, il n'y a pas de. Tous les moments sont bons là, pour s'ouvrir sur le monde et tout ça, et ce festival-là le fait. Donc, ils le font non seulement par la nourriture, mais ils le font par une espèce de vente aussi. Il y a un gros, gros chapiteau où est-ce qu'il y a plein de. D'éléments, de vêtements de différents pays, de bijoux, de tambours, des trucs comme ça. C'est merveilleux aller là-bas, tu te promènes là-dedans, tu vois, tu peux même parler avec les artisans. Donc, c'est non seulement des restaurateurs d'ailleurs, mais aussi des artistes plus manuels qui sont là et aussi, en terminant, des artistes musicaux qui performent sur la scène. Mais non seulement musicaux, marquants aussi, il y a des danseurs, il y a du théâtre et tout ça, c'est tellement varié. Et là, je me demande si cette année, il y aura encore ce festival.
J'en ai aucune idée.
Mais c'est parce que, tu sais, évidemment, il y a beaucoup de personnes, ça nécessite beaucoup de personnes aussi, c'est la région de Sherbrooke également, là, les artistes, mais ils font venir également des artistes d'ailleurs et tout ça, donc je ne sais pas avec le déplacement si ça aura lieu. Peut-être sous une autre forme, comme... Le Lac des Nations, peut-être.
Ou combien des festivals ont eu lieu pour la fête nationale puis la fête du Québec.
Mais sachez qu'on va vous en reparler si ça a lieu. On va faire nos petites recherches parce que là, ça me vient en tête comme ça, mais on voulait pas vous en parler tout de suite parce que c'est quand même au mois d'août. Mais si ça a arrivé, le festival, c'est sûr qu'on vous en reparle. Habituellement, les prix sont très, très abordables. C'est vraiment, vraiment moins cher que le Lac des Nations. Bien évidemment, il faut dire que le prix d'entrée à ce festival-là n'inclut pas la nourriture achetée.
Donc, mais je vous dis, l'expérience culinaire en vaut complètement la peine. Là. Aller là-bas et goûter, là, c'est... non, c'est vraiment, vraiment... C'est une activité en soi, là. T'sais. C'est une découverte.
Ouais, ouais, ça, c'est sûr. C'est une belle, grande découverte.
C'est de la culture, tu sais, finalement.
C'est manger la culture, littéralement.
Tout à fait! Puis en manger à la pelletée, parce que les spectacles et tout ça, là. Tu sais, non, mais finalement, on se rend compte. Donc, c'est ça. On va vous reparler de ça et tout ça. Mais... j'ai bien hâte de voir si ça a lieu. Donc, petit rappel vite, vite. Alors, Cher Blues, 7 au 11 juillet. On se rappelle, vous pouvez aller sur le site Internet pour la programmation.
Concert de la Cité, du 14 juillet au 6 août. Et la fête du Lac des Nations, je vous laisse deviner. Du 14 au 17 juillet. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter chacun de leurs sites web.
Peut-être, avant qu'on aille en musique et en pause, nous parler... d'un documentaire?
Oui! Hey, on pourrait. Oui, on va faire ça.
On pourrait?
Oui, on va faire ça. Donc, moi et Marianne, encore une fois, j'aime bien dire qu'on est sortis en ville. On est sortis de notre caverne pour aller au cinéma. Et les ondes vertes riment avec manger popcorn, boire de la slush.
Ouais.
Donc, on a vu la bouée. La tournade, la tornade médiatique envers le documentaire La parfaite victime. Donc, bien évidemment, moi et Marianne, avec nos yeux vers la culture, on est allé voir ce documentaire-là. Et.
Mais il faut dire qu'on voulait aller voir Conjuring au début.
Ouais, mais finalement, on a laissé tomber, puis on est allé voir ça, puis je crois que ça a valu la peine qu'on choisisse ça. Pour vrai, là.
Oui.
Fait que La parfaite victime, c'est un documentaire qui a été créé par Monique Néron et Émilie Perrault, qui sont des journalistes qui ont interrogé des victimes, des juges, des criminalistes, ainsi que des avocats et des avocates pour comprendre pourquoi les personnes qui ont été agressées sexuellement abandonnent l'idée de faire affaire avec le tribunal populaire, puis utilisent plus les réseaux sociaux plutôt que la voie judiciaire. Je sais pas si c'était clair comme je l'ai dit.
Ouais, oui, tout à fait.
OK. Puis ce documentaire-là, qui est appelé documentaire choc, souvent, quand que je vois documentaire choc, c'est pas si choquant. Mais je vous jure, c'est choquant. Pour vrai, là. Et ça plonge vraiment le public dans la réalité vécue par des victimes dont le parcours judiciaire a été suivi pendant 3 ans.
OK, 3 ans, je savais pas ça.
Pendant 3 ans, ça a été suivi. Et c'est comme ça qu'ils ont accumulé autant d'informations avec les victimes. Ben, il y a plus des victimes prioritaires qu'on entend plus parler de leur histoire là-dedans, là, comme le gars puis la fille. C'est tellement précis. Et la force du documentaire est vraiment de mettre des visages, soi-disant ceux des victimes, sur des réalités judiciaires pouvant paraître abstraites et de raconter que ces personnes, c'est quoi que les personnes ont pu ressentir lors de l'agression ou lors des différentes étapes du processus judiciaire, parce que maudit qu'il y en a! Il y en a des étapes. Puis ouais. C'est frustrant d'aller voir comment ils pensent. Mais ça, on va en parler un petit peu plus après.
Mais oui, c'est ça. Puis justement, tu sais, ce type de documentaire-là, parce que là, tu dis que ça fait 3 ans... Ce type de documentaire-là ne se fait pas sur un coin de table. Là.
Eh bien non.
Puis pour montrer une réalité qui date des décennies et des décennies, faire ça en 3 ans, je trouve ça peu. Mais c'est vraiment, dans ma tête à moi, c'est des années, là. Tu sais, je veux dire, elles, c'est des journalistes, elles, qu'ils ont fait le documentaire. Et donc, la recherche qu'elles ont dû faire, de récolter des témoignages et tout ça, c'est sûr qu'elles ont dû être aidées, là.
Aider probablement, c'est sûr.
Oui.
C'est sûr, je me suis pas penchée plus sur l'aide, je me suis vraiment plus penchée sur l'aspect société, comment la société l'a perçu, comment le système judiciaire l'a perçu, parce que, bien évidemment, tu sais, La parfaite victime, ce documentaire-là, c'est vraiment son côté éducatif, je crois, qui fesse le plus en bon québécois. Mm-hmm. Et selon une juge qui avait parlé avec la presse, elle a craigné que le documentaire soit trop négatif à ses yeux puis que ça décourage les victimes à déposer une plainte. Puis ça, c'est la grosse crainte du documentaire puis que la société est comme en débat là-dessus.
Ah ouais?
Ouais. Mais d'un autre sens? Ben, pour avoir vu le documentaire, c'est... Je comprends la crainte.
Ben, OK. C'est sûr que, évidemment, là, y a des craintes par rapport à ça. Mais est-ce que... La question que moi, je pense que on va discuter là, après la pause et tout ça, parce que je veux qu'on garde la discussion après, c'est que est-ce que le documentaire met bien en lumière les deux côtés? Les deux côtés étant les contraintes du système judiciaire et tout qu'est-ce qui empêche, et aussi du côté des victimes qui réussissent à se rendre là aussi.
Ça prend tellement de courage rentrer là. Mais on voit le beau et le mauvais de chacun des côtés, je dirais. Mais le beau. C'est sûr que le système judiciaire est vraiment perçu comme la pire des choses au monde, là, dans ce documentaire-là, je trouve.
Oui, ça, c'est sûr.
Mais d'un autre sens, ce qu'ils ont montré, c'est vrai. C'est vrai. C'est exactement vrai ce qu'ils montrent.
Oui, et je suis sûre que vous, à la maison, vous voulez savoir. Mais moi, je dis, écoutez, attendez, on va en chanson et on va en pause. Et ensuite... On vous jase de ça, on vous donne notre opinion, on vous donne nos impressions par rapport à ça, sous toute nuance. Alors, on y va avec la chanson confessionnelle de Émile Bilodeau. On va en pause et on revient ensuite.
On a un tas de secondes à investir et dépenser. Malgré ça, on peut pas plaire à tout le monde, mais le désir d'y arriver mets du plaisir dans mes journées. Mais comment cruiser le monde entier? Comment faire pour plaire à terre entière? Si j'ai de la misère à te garder, toi, ma plus grande fierté. C'est triste, mais sache que c'est normal qu'on se fasse du mal. On en a pelleté des nuages, les pieds sur le bord de la plage. Mais là, on doit tourner la page. Maudit que je trouve ça dommage, mais nos amis trouvent ça sage. Est-ce qu'ils sont caves? Est-ce que c'est grave? Si le petit fame fait partie de la game, trust me, I'm always the same. Toi, t'es-tu à l'aise de même? C'est triste, mais sache que c'est normal qu'on se fasse du mal. À investir et dépenser. Malgré ça, on peut pas plaire à tout le monde, mais le désir de te retrouver.
De retour au sandwich culturel avec Eva Duo M&M. On était rendu où?
On était rendu à donner notre opinion sur le documentaire. Et durant la pause, on s'était dit, mais semble que notre émission, ça manque de crunch. Ben, juste pour vous, juste des crunch. J'espère que vous avez le goût de manger des chips maintenant.
Donc, documentaire La parfaite victime, qu'on jasait tout à l'heure, film de Monique Néron et Émilie Perrault.
J'avais oublié de préciser que la productrice, son nom m'échappe, mais c'est la même qui a réalisé...
Denise Robert.
Voilà, qui a réalisé Dérapage. Mais pas réalisé.
Produit. Donc, Marika, tes impressions sur le documentaire?
Moi, ben franchement, je suis sortie de la salle du cinéma vraiment fâchée. Fâchée noire.
OK. Ça, c'était de la frustration, de la colère.
De la frustration. Et comme je te disais plus tôt, j'en ai parlé avec ma maman. Et j'étais vraiment bouleversée par le fait que les victimes sont tellement pas prises au sérieux. Genre, ça me frustrait d'entendre parler des criminalistes comme si... qu'il y ait un agresseur qui se promène dans la rue, mais eux autres, ils ont gagné leur cause, fait qu'ils sont bien que ça. Mm-hmm. Puis que la victime, ben, tu sais, elle va vivre toute sa vie avec ça, puis avec toutes les répercussions, elle va passer sa vie à se reconstruire de cet événement-là. Puis parce qu'elle se rappelait pas la couleur du tapis, pardonnez-moi, OK? Se rappelait pas de la couleur du tapis, fait et avec ça, ben, le criminaliste va aller piger là-dedans, elle va stresser encore plus la victime, puis à cause de ça, elle va bafouer, puis elle va comme se perdre, puis grâce à ça, eux autres, ils vont gagner, puis l'agresseur, il va rester en liberté, tu sais.
OK. Ouais.
Ça fait vraiment réfléchir pour vrai sur n'importe quel volet de la vie, mais surtout en ce qui concerne le système judiciaire qui, ma foi, doit être révisé depuis des années. Là. On le sait que c'est pas mis à jour dans tous les volets, là.
Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est parce que l'affaire, c'est que la justice, tous les tribunaux et tout ça, le système de justice, le système de droit au Québec et au Canada n'est pas nécessairement adapté à ce type de crime-là.
Ouais.
C'est ça que le documentaire met en lumière vraiment, parce que le système judiciaire doit être... on doit apporter des preuves, preuves concrètes et tout ça. Mais même là, dans le documentaire...
Ils l'ont dit, que tu aies des preuves concrètes, ouais, précises... Genre, ils vont quand même pas te croire. Puis si t'es flou, ils te croient pas. Fait que c'est quoi qu'ils veulent?
Non, c'est ça. Puis honnêtement, dans le documentaire, je vous invite à aller le voir. Non seulement, tu sais, ce n'est pas... Juste vous dire, là, ce n'est pas un documentaire léger. C'est un documentaire qui est lourd, qui est chargé émotivement, mais qui fait réfléchir et qui fait ouvrir les yeux. Et les moments de silence dans le documentaire sont nécessaires. C'est des moments silence qui doivent être pris par la société au complet, mais également par le système et tout ça. Des moments de silence, pas pour seulement être silencieux, pour être dans l'introspection et dans l'action. C'est ça qu'il faut qu'il se passe, parce que là, on n'est plus juste... Là, on constate, là. On constate les dégâts, on constate tout ce qui a été enfoui auparavant. Là, c'est ça qu'on fait. Maintenant qu'on a constaté ça, qu'on fait des documentaires, qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Le documentaire, c'est une manière de sensibiliser, de mettre la lumière là-dessus.
Oui.
Mais il faut aller plus loin. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe. Est-ce que c'est dans l'éducation?
Moi, je crois vraiment, comme quand ils ont dit dans le documentaire, c'est dans les dernières minutes du documentaire, ils disaient que la société était malade. Mais oui.
Oui.
Oui. Sur ça, oui.
Ouais.
Cette année, ça a explosé dans tous les volets. Avec le hashtag MeToo, ce documentaire-là, il est sorti dans le bon timing, je veux dire. Puis tu sais, après ça, il y a eu avec Black Lives Matter. Puis c'est quoi, il y a eu d'autres? Il y a les 7 octobre présentement que ça va vraiment pas bien. Là.
Ouais.
Genre, tout est en train de nous exploser dans la face. OK, c'est très pessimiste, mais c'est quand même ça. Tout nous explose dans tous les volets.
Oui, mais ça dépend comment qu'on le voit, OK? Parce que si on se dit, bon, ça nous explose dans la face, on le voit. On est capable, on le sait là, que c'est là. Là. Ouais. Donc là, on peut agir. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans « on le savait pas ».
Faut s'unir pour agir.
Ouais.
Et tu sais, on va rester dans le même contexte d'agression sexuelle. Même si, comment je pourrais dire, les personnes qui sont derrière ce système judiciaire-là, il va falloir quelqu'un d'assez puissant pour aller les accoter puis aller faire « hey », puis aller faire du ménage là. T'sais. Parce que d'ici là, il n'y a rien qui va changer.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, on dit souvent, moi, je le dis pas si souvent, mais je le sais que les gens le disent souvent, que la jeunesse, c'est demain, là, c'est l'avenir.
Pour vrai, oui.
Mais moi, je pense que... Écoutez, moi, j'ai pleuré en sortant du documentaire, là. Puis oui. Là, on dirait tout le temps que je pleure, mais...
Ah, mais t'étais particulièrement touchée, là.
Écoutez, j'étais vraiment ébranlée parce que... on sait pas non plus dans notre entourage des choses comme ça, puis rester à l'écoute et réceptif à ces choses-là, on peut toujours aider, OK, quelqu'un et tout ça. Mais tout le monde devrait voir le documentaire, non seulement pour comprendre la situation, mais pour être sensibilisé pour après. Moi, je pense que dans les écoles primaires et secondaires, peut-être pas primaire, c'est un peu jeune.
Ouais, primaire,
peut-être secondaire. Ouais, ouais, primaire, non, mais secondaire,
ouais.
Ça mettons le secondaire 4-5,
ouais,
ça 4-5. Devrait être présenté. OK? Puis qu'il y ait une réflexion, une discussion après ça.
Pour vrai, si ce documentaire-là est représenté dans plusieurs événements de la jeunesse, je pense que ça pourrait vraiment changer le cours des choses.
Puis j'entendais justement à la radio, pas plus tard que hier, que à une émission, je ne sais plus trop où, les réalisatrices, les deux journalistes, en fait, disaient qu'elle aimerait beaucoup, beaucoup diffuser le film à la grandeur du Canada et peut-être même à l'échelle mondiale.
Je l'espère.
Oui.
Parce que c'est pas juste une injustice. Tu sais, c'est une injustice qu'on reconnaît au Québec, au Canada, mais à tout dans le monde aussi, là.
Ben exactement. Non, c'est de la violence. C'est de la violence qui devrait pas être acceptée et qui devrait avoir de la sensibilisation par rapport à ça. Et justement, le fait. Parce que là, présentement, les projections sont seulement au Québec.
Oui.
Et j'ai entendu dire aussi qu'il y avait beaucoup d'opposition par rapport à ça et très peu d'appui par rapport au documentaire. Mais les visionnements au cinéma et tout ça sont très, très élevés.
Ben oui.
Je n'ai pas le chiffre, mais présentement, là, ça s'enligne bien pour le documentaire, honnêtement.
Ça fait quoi, une semaine qu'il est sorti?
Ouais.
Ça fait une semaine, ouais. Là, puis les salles sont combles. Tu sais, ouais. Même quand on est allé, il y avait beaucoup de monde.
Mm-hmm.
Et ce que j'aimais, c'est que, non, ça, on était tous tellement ancrés dans le documentaire puis tellement fâchés sur ce qui se passait. Il n'y avait pas juste nous autres qui étaient fâchés puis qui sacraient dans la salle. Il y avait une madame à côté puis qui était genre, « C'est ça! Ils ont tout gagné!
» Mais c'est ça.
On ne sent rien, mais c'est ça pareil. Les gens étaient autant pris que nous. Puis je me dis que si il y a plus de gens possibles qui peuvent aller voir ce documentaire-là, je pense qu'on peut faire peut-être un changement.
Puis, il faut en parler de tout ça.
Ah oui,
parce que
c'est important.
Quand ça reste dans le tabou, puis quand ça reste dans, justement, les non-dits, puis tout ça, c'est là que ça cause encore plus de tort. Fait que je pense que c'était très nécessaire qu'il y ait ce documentaire-là. Puis, peut-être en terminant, Marca, la scène du sifflet.
Ah!
À la fin du documentaire, peut-être, je vais juste vous dire la scène du sifflet. Pas trop, décrit pas trop, là, si vous voulez aller le voir, mais juste vous dire, c'est une scène clé. Clé, là. Il y a personne qui parle dans cette scène-là, juste vous dire. OK?
Juste un sifflet.
Ben, ouais.
Juste un sifflet.
Écoutez, cette scène-là, là, c'est une des dernières scènes du documentaire.
C'est pas là.
Je pense, c'est de la dernière.
C'est la dernière scène.
Je veux juste vous dire des qualificatifs, là. Prenant, déstabilisant, pas agréable et agressif.
Ouais. Mais qui vaut la peine d'être vu.
Tout à fait. Et je trouve ça un peu fou de vous laisser là-dessus, sur notre, notre émission, mais sachez, c'est un très bon documentaire.
On vous invite fortement à aller la voir. C'est à la Maison du cinéma.
Mardi prochain, c'est quoi qu'il y a?
Ah, c'est vrai, mardi prochain, les deux journalistes ils viennent répondre à des questions du public pour durant une projection du film la semaine prochaine, mardi 13 juillet à 19h à la Maison du cinéma. Les places s'envolent. Comme des petits pains chauds.
Et c'est l'occasion pour vous de rencontrer les journalistes, là, de poser des questions.
Oui, puis de poser des questions, mais comme je vous dis, dépêchez-vous parce que là, ça s'envole comme des petits pains chauds. OK, je vais arrêter de donner des petits pains chauds. Mais pour conclure, écoute, merci beaucoup, Marianne, d'avoir été à l'émission.
C'était très plaisant. Très plaisant.
Et bien évidemment, c'est ce qui conclut notre émission de cette semaine. Et bien évidemment, comme toujours, notre émission va être en rediffusion la semaine où nous ne sommes pas en direct. Et vous pouvez toujours écouter les émissions à nouveau sur le site de CFAQ dans la section de notre émission. Et vous pouvez aussi retrouver nos émissions sur notre page Facebook. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et on se retrouve dans deux semaines pour d'autres actualités culturelles. Sur ce, passez une très belle semaine!